Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, on va réécouter ensemble les meilleurs extraits des émissions de la semaine. Et on commence avec le Loft Music. Mercredi, Yvan Cujus recevait le chanteur Tété, qui célèbre cette année les 20 ans de la sortie de son premier album L'Air de Rien. L'occasion d'annoncer une réédition de 50 titres de cet album prévu pour la rentrée et de fêter ça avec un medley inédit en live, rien que pour vous.
Le meilleur de Sud Radio.
On pratique ici, c'est un rituel, ce qu'on appelle les applaudissements de confiance.
Tété
dans le Loft sur Sud Radio en direct.
Rester serait mourir un peu. Rester serait comme une sorte de désaveu. Oh, 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 mais partir vivre, c'est recouvrer ses sens. C'est comme une seconde naissance. Et quand je n'en pourrais plus, je viendrai me ressourcer, me ressourcer. Avant à avec la misère, seulement on avait déjà du mal à faire. Et maintenant il y a la guerre. Ces damnés militaires mourront tout prix. Si frère, un père, une terre, mes amis, mon pays. Allons ma mère, partons c'est mieux. S'il n'y a plus rien à faire, pour l'amour de Dieu, allons vers l'ouest qui tendons ce funeste lieu. Allons quelque part, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelque part, tout va pour le mieux dans le meilleur des j'aime.
Oh, enchaînement magnifique, audacieux.
J'aimerais que quelqu'un m'ouvre grand, c'est voilà que je m'y fiche, que je m'y loge, que je m'y niche. Tout, tout le doute que l'on m'ouvre enfin, que je m'y love, 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 love. Cher Tristan m'indiffère, si je là ne me dise guère.
T'es prêt pour le refrain la trompette?
Ne me dise guère. Mais nous pourrions danser un brin, histoire de si tu le veux bien. Si tu le veux bien, yeah. J'aimerais que quelqu'un m'ouvre grand ses bras, que je m'y fiche, que je m'y loge, que je m'y niche. Tout, tout de doute que l'on mourra, enfin que je m'y love, love, love.
Bien, bien. C'est ce que dit Patchy, voilà, ça groove, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a des gens qui groovent comme ça, et il se passe des trucs sans, voilà, sans besoin d'en rajouter, juste comme ça, tout droit, ça groove.
Bah, en fait, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est quand on parlait de la musique intérieure, moi, ça me fait penser à la musique du ventre et à la naïveté de quand on a 15 ans. Et c'est vrai que c'est très important pour moi, parce que souvent, quand on commence à écrire, quand on commence à jouer de la guitare, on ne se rend pas compte de ce qu'on essaie de faire, mais je crois que c'est cette insouciance-là qui vous, trouve, qui vous permet de trouver le chemin vers vous.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que des années plus tard, c'est ça qui reste, je trouve. Il y a des périodes qui succèdent, il y a des modes musicaux, il y a des choses qu'il faut écouter, y a des... mais la musique qui vous révèle à vous-même, il y a quelque chose d'intemporel. Alors, quand je dis ça, qui vous révèle à vous-même, pas la vôtre. Hein.
Oui, j'entends.
La musique des chanteurs qui nous inspire. Je sais, toi, il y a forcément des chanteurs qui t'ont donné envie de faire ce métier. Il y a forcément.
Mais Pachi, tous les chanteurs basques déjà. Sur Sud Radio, on est très attachés à parler du Sud.
Il y a les chanteurs basques, mais c'est pas les chanteurs basques qui m'ont donné envie de faire des chansons.
Ah, oui, bien sûr.
Les Bachon, Christophe.
Ouais. Bachon, Christophe, je ne suis pas sûr que tu aies le bon micro là, peut-être tu vas te mettre à côté un peu. On va le temps pour moi de revenir sur cet album des 20 ans de carrière, 20 ans de carrière TT. Ce premier album s'appelle L'air de rien, là il sort donc dans une réédition augmentée donc, de plein de titres, si bien qu'on arrive à la cinquantaine, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, mais voilà c'est la cinquantaine. Avec une saveur particulière en premier album, parce qu'il illustre, il incarne le désir, le rêve, le mystère aussi, le début. Donc il a une saveur toute particulière, Tété.
Je crois qu'un premier album, c'est particulier parce que ça raconte l'histoire d'une vie. Souvent, les chanteurs, les chanteuses commencent à écrire à 13-14 ans et quand l'album sort et qu'on a 25 ans, on est sur 12 ans de chansons qui ont été triées sur le volet. Et les albums d'après ont ceci de particulier qu'on n'a qu'un an pour les écrire. Et c'est vrai que j'ai été très touché quand Sony, que je remercie d'ailleurs pour son accompagnement, m'a dégoté, m'a déterré, exhumé des archives que je n'avais pas entendues depuis 20 ans. Donc j'ai redécouvert des chansons oubliées, j'ai redécouvert des versions oubliées, des lives, des...
Il y en a à peu près 200 chansons, c'est ça? De combien à ton actif, chansons, tu les as à peu près comptées?
J'ai déposé plus de 200 chansons.
Ouais, c'est ça, plus de 200 chansons.
Après, sur 8 albums, il n'y a évidemment pas toutes les chansons, parce qu'il y a des chansons que j'écris pour d'autres. Tu parlais de Louane, moi j'ai eu la chance d'écrire pour des Amir, pour les Frérots de la Vega, pour des gens comme ça. Je crois que c'est un cheminement d'artiste, c'est écrire pour soi et pour l'autre. Et quand je pense à l'autre, c'est d'autres artistes. Et le public.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous chaque jour de 20h à 21h dans le Loft Music. Restez sur Sud Radio, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossier et l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur la guerre des droites. Et avec l'invité de la matinale de Philippe David et de Cécile des Minibus, l'avocate Céline S. Alperne. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, c'est un plaisir d'être avec vous pour réécouter les meilleurs extraits des émissions de la semaine. Et on poursuit avec l'équipe des Vraies Voix. Mardi, Philippe Rossier et ses chroniqueurs Philippe Bilger, Adrien Bretons et Maxime Thiébaud ont débattu sur l'éventuelle mise en examen du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, soupçonné de conflit d'intérêts suite à l'oubli de 300 000 euros dans sa déclaration d'impôt. Écoutez.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossier.
Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas.
Me jugez pas, Camille Lelouch, vous connaissez Philippe Bilger, vous qui connaissez tout, j'ai appris que Philippe Bilger connaissait de l'âme à Dita Ventise. De la chanteuse populaire des années 90 à la danseuse érotique.
Il est difficile
érotique.
De ne pas la remarquer.
Mais oui, c'est vrai. Camille Lelouch, tiens, vous connaissiez Philippe Bilger ou pas?
De nom, oui.
De nom, ouais. C'est une humoriste qui chante aussi également. Adrienne et Maxime la connaissent. Soupçonné de conflit d'intérêts, Éric Dupond-Moretti est donc convoqué la semaine prochaine chez les magistrats en vue d'une mise en examen. Emmanuel Macron, assez embarrassé. S'il soutient son garde des Sceaux, on fera tout pour le garder au gouvernement. C'est ce qu'il a affirmé il y a quelques semaines. Eh bien, le chef de l'État est toutefois attaché à la jurisprudence Balladur. Un ministre mis en examen doit quitter le gouvernement. Et donc, Éric Dupond-Moretti pourrait être mis en examen le 16 juillet prochain. Emmanuel Macron doit-il se séparer de son garde des Sceaux si jamais il est mis en examen? Vous dites oui sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 91%, 0826 300. Ça, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour réagir, en débattre avec Philippe Bilger, Adrienne Bretons, Maxime Thiébaud. Tiens, je vais commencer avec vous. Alexandre est avec nous. Bonsoir, Alexandre.
Bonsoir.
Bonsoir, Alexandre de la Drôme. On vous entend parfaitement, Alexandre. Alors,
d'accord.
Dites-nous, Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'il doit rester garde des Sceaux ou pas?
Alors, il n'est pas à sa place, déjà, je pense. Ce n'est pas la bonne personne à la bonne place. Ensuite, je serais... moi, en tant qu'individu, je dirais qu'il faut le gicler. Maintenant, je suis à la place de Macron, je le garde parce que je ne peux pas le gicler. Voilà la réalité.
Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi? Pourquoi il ne pourrait pas?
Parce que ce serait encore une erreur de plus qu'il aurait commise, de choix, une erreur de choix, voilà, de personne. Une de plus encore, ça en fait déjà beaucoup, énormément. Et mais honnêtement, hein, honnêtement, comme je le disais à Mélodie,
ouais. Mélodie, moi, c'est la standardiste qu'on embrasse, la standardiste des vraies voix. Ouais.
Je regarde la politique française, même si j'habite en France depuis 2010, je suis revenu vivre en France. J'ai passé 35 ans en Suisse. Mon frère avait pris la nationalité, moi je ne l'ai pas prise, mais bon, et je compte y retourner. Donc je regarde la politique française, le pays où j'ai grandi, avec des lunettes autres que les vôtres. Ouais. Et donc je suis... dégoûté, c'est le terme exact. Mmh. Voilà. Il faut être fou aujourd'hui pour vouloir être ministre ou président dans ce pays où chacun, où les débats ne sont que des confrontations d'opinions. Et les gens prennent leur opinion pour des vérités. C'est triste. C'est un échec monstrueux.
Vous êtes mieux en Suisse, on l'a bien compris. Tiens, je vais, Adrienne Breton, Maxime Thiébaud, juste vous rappeler qu'Édouard Philippe avait indiqué, souvenez-vous, dès son premier gouvernement, que les ministres mis en examen devraient démissionner, exception faite de la diffamation. Souvenez-vous de François Bayrou et Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard également, en cause dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. Eh bien, ils ont quitté leurs fonctions, et ce, dès l'ouverture de l'enquête judiciaire. Ils n'ont pas attendu d'être mis en examen, c'est arrivé ensuite. Et puis, bah, il y a le cas d'Darmanin, hein, le ministre de l'Intérieur, qui est visé par une information judiciaire pour viol, toujours soutenu par le gouvernement, alors à rappeler que Darmanin n'a pas été mis en examen. Voilà, il a été entendu sous le statut, enfin, il a été mis sous le statut de témoin assisté. Il a le choix ou pas, Emmanuel Macron, Maxime Thiébaud, de se séparer d'Éric Dupond-Moretti?
C'est une coutume républicaine.
C'est vrai.
Que de le faire, et comme toute coutume, elle peut être changée. Et moi, c'est une coutume qui me semblait bien dans un état de droit dans lequel il n'y avait pas d'entrave parfois de la magistrature sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et je note, et je le dis sincèrement, que, et pour moi c'était un point de rupture, depuis le mur des cons par une partie, par le syndicat de la magistrature, je pense que la magistrature française est parfois un peu entachée. Et je pense donc que cette coutume ne doit plus forcément être appliquée. C'est-à-dire que ça devient un pouvoir politique très fort. On l'a vu dans l'affaire Fillon. Étonnamment, dans l'affaire de Dupond-Moretti, on a un calendrier qui s'accélère. Hein. Y a beaucoup de personnes mises en cause en France qui ne passent pas devant un juge d'instruction pour être mises en examen aussi rapidement que ne pourrait l'être notre garde des Sceaux. Et je pense que la présomption d'innocence doit être défendue en toute situation, tant il n'y a pas de condamnation pénale définitive où toutes les voies de recours sont épuisées, où il n'y a pas l'autorité de la chose jugée, je pense que la présomption d'innocence doit perdurer et qu'une personne, surtout pour des histoires telles que celle-ci, qui restent quand même des affaires dites de col blanc, une personne doit en bénéficier dans tous les cas, et qu'un personnel politique ne doit pas obligatoirement démissionner si il est mis en examen dans de telles affaires.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Philippe Rossi et toute l'équipe des Vrais Voix, rendez-vous dès lundi de 17h à 19h. On continue avec un extrait de la matinale de mardi. Philippe David et Cécile de Minibus recevaient Céline S. Alperne, avocate, auteure et animatrice de conférences relatives au droit et à l'éthique, venue présenter son livre « L'éloge du rire », l'occasion de répondre à la fameuse question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui le droit de rire de tout ? Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Vous êtes donc avocate Céline S. Alperne, c'est pas le métier le plus amusant qui soit. L'éloge du rire, c'est une thérapie ?
Oui, exactement, c'est une véritable thérapie. De toute façon, j'ai toujours intégré du rire dans tout, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, et je pense qu'il aide beaucoup, il nous sauve de nombreuses situations. Donc j'ai voulu lui rendre hommage. Voilà.
Et à l'ère du confinement, justement, c'est peut-être la seule chose qui nous restait, la possibilité de rire.
On ne pouvait plus s'embrasser, donc je me suis dit, bah, rire au moins, on peut toujours. Et c'est vraiment un moyen de communication extrêmement important et très positif, et qui nous permet d'interagir de manière très constructive, je trouve, et puis rigolote, quoi. On a besoin de ça, et on a tous besoin de se retrouver pour un moment de convivialité. Donc je trouve que rire, c'est extrêmement indispensable.
Est-ce que c'est une question de nature, finalement? Parce qu'on voit certaines personnes qui rient assez peu, et d'autres qui rient de tout, comme Philippe David,
oui,
qui est plutôt très bon vivant. Est-ce que c'est une nature, et est-ce que ça se fabrique, finalement?
Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a tous une nature, on est tous plus ou moins, on a tous une nature plus ou moins joyeuse, et c'est vrai qu'après ça se travaille, hein. Il y a des gens qui me disent, oh là là, moi c'est vrai que toi tu rigoles souvent, même pour rien, mais oui. moi il en faut beaucoup pour que j'aille plus loin dans
on nous dit ça aussi avec Philippe David. Oh
oui. Voilà, on dit, ouais, là, toi c'est vrai que c'est sympa, et finalement je me rends compte que j'ai tendance à, notamment dans le boulot, hein, à t'écouter plus, parfois même quand tu tiens des propos pas spécialement passionnants pour moi, même le sujet ne me passionne pas, bah, le fait que tu le présentes de manière plus vivante, plus drôle, eh bien ça m'interpelle plus.
Vous posez la question, a-t-on le droit de rire de tout ? C'est amusant de mettre le droit dans cette question quand on est avocate.
On peut rire de tout. Maintenant, ça, tout dépend de la manière dont on présente le sujet, voilà, ouais. Et dont on présente l'humour qu'on intègre dans le propos. Mais je pense qu'on peut rire de tout, oui.
Mais il y a une unité de temps.
Oui,
certainement. Entre le moment où il y a un événement un peu dramatique et le moment où on en rit, il y a quand même un peu de temps.
C'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut trouver le juste moment, le juste ton, le juste propos. Et puis je pense que quand il y a de la bienveillance dans le rire et dans la manière dont on le présente, eh bien ça passe et on comprend le message.
Est-ce qu'on comprend assez finalement que le rire est extrêmement bénéfique pour nous, surtout en sortie du confinement ? Est-ce qu'on se rend compte finalement que on peut passer parfois des semaines entières à ne pas rire, même peu sourire en tout cas.
Bah oui, c'est pour ça que dans mon livre, j'essaye justement de donner des petits exercices pratiques amusants pour finalement, même quand on n'a pas forcément des raisons de rire, d'apporter ne serait-ce que plusieurs sourires par jour, parce que c'est le sourire qui est l'amorce du rire.
Alors, vous écrivez qu'il y a les rires homériques, gaulois ou rablésiens. Pouvez-vous nous expliquer ? Il y en a un gaulois, un français et un grec.
Oui.
C'est comme le pied.
Ben exactement. Je pense qu'on a l'humour est complètement différent. Ils se complètent tous les trois. Ils ont une connotation historique complètement différente. Mais finalement, je crois qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un humour complètement hybride, avec les trois en même temps. Et c'est ça qui fait son charme.
Et on a des déesses, parce vous en parlez dans votre livre, Hilara, qui était la déesse grecque de la clarté et du rire, et on avait aussi Aphrodite, justement, déjà à l'époque, on riait.
Exactement, Aphrodite n'est pas synonyme que d'amour, mais aussi de rire. Hilara, on entend hilarant, c'est bien très sûr. Drôle, donc on comprend pourquoi justement on utilise ces termes, et rien que de l'entendre, moi ça me fait marrer.
mais les hommes préhistoriques riaient déjà.
Mais oui, mais bien sûr, ça, scientifiquement, il y a eu des études qui ont montré que les hommes préhistoriques riaient, et qu'ils avaient une forme d'humour tout à fait similaire à la nôtre aujourd'hui, sauf que c'était pas les mêmes blagues.
Voilà. Il faut inciter les gens à rire. On va vous faire écouter un petit fou rire. On verra si effectivement derrière votre poste.
Personnellement, j'attends un rire communicatif.
On a envie de rire.
C'est communicatif en fait.
Oui,
alors certains ont plus le rire communicatif que d'autres.
Oui, il y a des rires qui sont hilarants.
Mais oui, c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, ceux qui ont une joie de vivre, il faut absolument la partager, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, on n'est pas tous égaux face au rire et à la bonne humeur. Est-ce qu'il faut forcément se dire, allez-y, parce que vous allez finalement entraîner les autres?
Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment c'est une envie aussi de partager et de voir des visages s'illuminer face à soi. Je trouve que c'est, moi personnellement, c'est aussi ça, le rire. Ça me fait vraiment encore plus rire de voir ceux que j'apprécie et ceux que j'aime rire, quoi. C'est vraiment comme un petit cadeau quotidien. Je me dis, tiens, j'ai fait rire ma voisine qui, elle rigole jamais, la pauvre, toute seule. Ah, ce matin, je l'ai fait rire. Vraiment, déjà, ça m'apporte quelque chose de très, très sympathique et
On dit de certaines personnes qu'elles rient à chaque fois qu'elle se brûle.
Oui, c'est vrai,
qu'elle se brûle pas souvent, pour certaines d'ailleurs.
Il y en a qui rigolent pas souvent, et c'est vrai que les faire un petit peu rire, on se dit, tiens, c'est waouh, c'était pas évident, donc c'est chouette.
Mais la liste est longue aussi sur les bienfaits du rire, puisque on apprend aussi qu'on maigrit en riant.
Oui, parce qu'on fait, ça
marche pas sur Philippe David.
Oui, sur moi, ça marche pas.
Ça fonctionne pas sur lui.
Problème génétique, je sais pas.
Il faut manger plus de chocolat en même temps.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Le Grand Matin Sud Radio qui revient dès lundi de 7h à 10h avec Philippe David et Judith Peller. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec le midi 13h de l'été de Christine Bouillot et les coups de cœur, coups de gueule de Valérie Expert. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci d'être avec nous. On va retrouver dans un instant le midi 13h de l'été, présenté par Christine Bouillot. Mais d'abord, on va s'écouter un titre d'Emma Peters, la finaliste du concours Centre Accor Loft Music Sud Radio de 24 ans, originaire de l'Oise, signe ici son premier single, écrit, composé toute seule et produit aux côtés de Julio Massidi, notamment connu pour avoir travaillé avec Aya Nakamura. Voici Fou sur Sud Radio.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop vieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma teuté et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas. Gros virement sur mon compte. Non, ça, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de litres, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. Oh, c'est la terre des terres. Je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
Dans le meilleur de Sud Radio, premier single de la finaliste du concours Centre Accor Loft Music Sud Radio, Emma Peters. On poursuit maintenant avec le midi 13h de l'été. L'animatrice Christine Bouillot recevait mardi Alexandre Jardin, venu présenter son nouveau roman La Plus Que Vrai, un roman d'amour et d'aventure dans lequel l'auteur nous rappelle qu'on a tous le droit au bonheur et à la perfection. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Comme un jeudi sur Nantes quand la mer est muette.
J'espère que ça vous convient, Alexandre Jardin, cette chanson pour parler de votre nouveau roman, Parler d'amour, de Art Mango.
Oui, j'accepte.
Bonjour Alexandre Jardin, vous publiez ce roman d'amour et d'aventure aussi, La Plus Que Vraie, c'est aux éditions Albin Michel. L'amour absolu. C'est ça qui vous a animé quand vous avez écrit ce roman. J'avais envie de vous demander d'une seule traite quasiment, parce qu'on retient son souffle du début à la fin en fait.
Mais avec folie, on a le droit à l'absolue légèreté. On a le droit à la perfection. On n'est pas né sur Terre pour vivre des amours de petite taille. Et c'est vrai qu'en écrivant La Plus Que Vraie, je jetais page après page cette furie, cette folie. Mais on n'est pas né pour autre chose que ce qui se passe à l'intérieur de ce roman. Voilà. Et si un homme ose vous aimer en deçà de ce roman, c'est un scandale.
Alors, ça se passe sur 4 saisons, hein, sur une année. C'est écrit à 2 voix. C'est l'histoire de Frédéric, cet auteur, et d'une femme, Alice, qu'il va rencontrer quelque part du côté de Bordeaux, dans un hôtel. Ça commence comme ça. Et ça devient une histoire folle, une épopée dingue entre eux. Et alors, on ne va pas raconter la fin, mais c'est l'histoire de prendre des risques, en fait. Tous les deux prennent des risques.
Mais ça veut dire qu'ils sont vivants. Ça veut dire que Le contraire de l'amour, c'est la sécurité. Le contraire de l'amour, c'est le petit format. C'est avoir tout anticipé. Ces gens-là sont capables de s'accorder le droit d'être légers, ensemble.
C'est l'amour ou c'est le coup de foudre, Alexandre Jardin ?
Et je pense que l'amour véritable, l'amour absolu, est d'une légèreté, d'une grâce, d'une drôlerie. Ça n'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose, au contraire, mais qui allège chaque seconde. Et je sais de quoi je parle puisque je vis cette légèreté-là. Mais ce qui est décrit dans le livre, on y a droit.
Quand vous écrivez, Alexandre Jardin, la plus que vraie, est-ce que la période dans laquelle on est englué depuis un an et demi a pesé aussi sur votre écriture ? Je m'entends quand je vous pose cette question-là, parce que ce roman, ça se lit d'une traite. On sort comme si vous aviez envie d'emmener le lecteur dans une course, en fait.
Mais on était à l'arrêt lorsque j'ai écrit ce livre. On était dans un état d'inertie collective, absolument hallucinant, de folie collective, de renonciation à la vie. Et donc, bizarrement, plus on me comprime, plus l'envie de vivre remonte, quoi. Et c'est vrai que La plus que vraie porte la trace de ce moment comprimé, de ce moment où on ne pouvait pas respirer.
Oui.
Et je voulais que la littérature nous fasse respirer. Exigeons le sublime, mais tout de suite. Mais elle a raison, l'héroïne, La plus que vraie, d'exiger ça. Parce que si on l'exige, en réalité, on met le couvert pour que le sublime puisse venir à table, puisse venir s'inviter.
C'est parce que c'est Alice qui mène le bal dans cette histoire.
Mais elle est divine. Elle est divine. Parce qu'elle ne se refuse absolument rien. C'est-à-dire, elle a la sagesse, l'intelligence, la hauteur d'exiger le sublime tout le temps. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore des femmes qui n'exigent pas ça ?
Mais peut-être que vous ne l'entendez pas, Alexandre Jardin.
Je ne la trouvais pas lorsque j'écrivais ce livre. Et je hurlais par écrit pour que quelque chose ait lieu.
Eh bien, quelque chose a eu lieu.
Oui.
Quelque chose a eu lieu. Alors, on va revenir sur, effectivement, ce qui vous est arrivé. Là, l'interview, on le réalise en ce moment. Vous êtes en extérieur. On vous voit sur la vidéo, oui. Sur YouTube et sur Facebook. Oui.
Pas loin d'un chantier.
Et du côté de Narbonne, c'est ça ?
Oui, pas très loin. Oui.
Dans l'Aude.
Et, oui.
Parce que vous avez craqué pour une maison.
Non, ce n'est pas moi. Je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai dit la vérité à un agent immobilier qui est poète de sa vie, qui est un homme qui a été un grand marchand de tableaux à Toulouse, un homme de goût. Et je lui ai dit à l'époque ce que j'étais en train de vivre. Après avoir terminé donc ce roman, j'ai fait un tweet un jour qui parlait du sublime. Et il y a une femme divine qui m'a répondu. On s'est parlé et j'ai rencontré la femme de ma vie. Au bout de 10 minutes, je savais que j'allais vieillir avec elle. Simplement, lorsque je lui ai demandé où j'allais vivre, elle m'a répondu Waterloo, et j'ai cru que c'était en Belgique. Elle m'a dit non, Waterloo, Ontario. Et je lui ai dit, mais ça fait... OK, je viens. Je vais devenir à moitié canadien, je vais vivre là où est la femme de ma vie. Voilà. Mais ça a été impossible pendant 8 mois, donc... À un moment, elle m'a dit, tu sais, c'est très froid, l'Ontario, il fait moins 40. Pour un petit Français, c'est très froid. Peut-être que par moment, on aura envie de chaud. Et je lui ai dit, écoute, il y a un endroit qui est pour moi divin, autour de Narbonne, où il y a encore des étangs sauvages, où il y a encore une Méditerranée sauvage. Et je suis rentré dans une agence immobilière là-bas et j'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Christine Bouillot, rendez-vous tous les jours dans le midi 13h de l'été. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses invités sont revenus sur une étude de la Fondation Jean Jaurès, axée sur la conception de la laïcité chez les professeurs. Une étude qui met en avant de grandes disparités au sein du corps enseignant. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, ça s'est passé cette semaine.
Judith. Alors moi, mon coup de gueule porte sur une étude
très bien faite, c'est pas l'étude qui est l'objet de mon coup de gueule, de la Fondation Jean Jaurès sur la conception de la laïcité des professeurs. Et cette étude fait apparaître un fossé et même un antagonisme terrible entre les enseignants de moins de 30 ans et les enseignants de plus de 30 ans. Les enseignants de moins de 30 ans sont favorables à ce qu'ils appellent une laïcité inclusive, c'est-à-dire avec signes religieux ostensibles, voile pour les accompagnatrices, les burkinis à la piscine ne les gênent pas. Ils envisagent très bien qu'on fasse des horaires séparés pour les femmes, pour pas qu'elles se baignent avec les hommes. Bref, on est face à une génération de professeurs qui a totalement abdiqué sur les valeurs républicaines.
Qu'est-ce qu'il en dit, Kevin Bossuet ? Pardon, oui, alors allez-y, terminez. Oui,
oui juste, je rapprocherai cette étude Jean Jaurès d'un rapport de sources gouvernementales qu'on a eu, nous, au Figaro, sur les établissements et la protection judiciaire pour la jeunesse, ça veut dire les foyers. Et les centres éducatifs fermés. Alors là, ce n'est pas des chiffres, c'est une enquête qui montre que le halal s'impose partout, que ce soit pour la nourriture, pour le respect du ramadan, avec la complicité active des éducateurs.
Mmh, ouais. Kevin ?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. En effet, on voit arriver de plus en plus des nouveaux enseignants qui ne maîtrisent finalement pas les bases de la laïcité, qui se demandent ce qu'est la laïcité. C'est vrai que ça pose un certain problème quand on est chargé de l'enseigner. Et puis même pour les enseignants de plus de 30 ans, vous avez évidemment les bons gauchistes, les bons syndicalistes qui nous racontent qu'à partir du moment où on défend la République, finalement, on est islamophobe. Donc, on baigne évidemment dans l'éducation nationale, dans une forme de gauchisme, voire chez certains enseignants, de gauchisme islamophobe. En effet, c'est totalement préjudiciable et on le voit également auprès des élèves parce qu'il y a un même institut, l'Institut Jean Jaurès, qui avait montré en effet que les lycéens, finalement, étaient beaucoup plus favorables à une laïcité ouverte qu'à une laïcité à la française. Et même quand on interrogeait les lycéens musulmans, se rendaient compte que pour eux, la laïcité, c'était quelque chose, c'était une barrière, finalement, à l'émancipation des musulmans, puisqu'il y a 84% des lycéens musulmans qui considèrent en effet que la laïcité, ça va contre l'islam. Donc, évidemment, que l'éducation nationale est en train de perdre son combat parce qu'en effet, il y a à l'intérieur de ces derniers des professeurs qui ne jouent pas forcément le jeu, mais ça s'explique aussi parce que quand vous sous-rémunérez les professeurs, quand vous avez des concours qui sont de moins en moins exigeants, on recrute finalement ce qui reste et puis les meilleurs, les plus convaincus, les plus intelligents, ils vont ailleurs tout simplement pour gagner plus. Et en effet, on a affaire ici à un constat qui est délétère au sein de l'école de la République.
Oui, oui, c'est aussi la conséquence, si je peux juste ajouter un mot, du processus de formation, parce qu'on s'est rendu compte, je vais pas avoir prêché pour moi, ça s'appelle, mais dans l'enquête que j'avais faite il y a maintenant deux ans sur la pénétration de l'islamisme à l'université, de cet islamo-gauchisme que Frédéric Vidal, la ministre, a aperçu le temps d'un éclair de lucidité et qu'elle semble avoir oublié depuis, que cet islamo-gauchisme sévissait donc particulièrement dans les branches où on forme les enseignants, c'est-à-dire où on enseigne les matières pédagogiques. Et voilà, on les retrouve aujourd'hui à l'école.
Mathieu, Cheng.
Oui, Kevin faisait référence à une enquête qui a été menée effectivement auprès des lycéens. Et donc, ils ont été interrogés par des confrères de l'IFOP sur leur effectivement perception de la laïcité, leur conception de la laïcité, et aussi sur les signes ostensibles, religieux ostensibles. Et là, on se rend compte effectivement d'un fossé abyssal. Plus de 50% des lycéens étaient en faveur de signes religieux ostensibles au lycée. Et ils avaient effectivement une conception de la laïcité qui est davantage une laïcité qui devrait assurer une égalité entre les religions. Au-delà de la question de l'islamo-gauchisme, je crois que c'est surtout, et c'est aussi 20 ans pendant lequel, au lieu de faire vivre l'expérience de la France, on a donné le sentiment qu'il fallait que chacun puisse exprimer sa différence. Et je pense qu'on ne sortira de ces débats intellectuels qu'en plongeant les citoyens, quelles que soient leurs origines, dans une véritable expérience de la France, dans une véritable expérience que c'est la laïcité. Si on n'est pas capable de le faire de façon extrêmement concrète. Hein. Et moi, je pense qu'il va falloir qu'on repasse par une citoyenneté d'engagement, qu'on repasse par un service militaire, quelque chose qui crée de l'émotion. Si on en reste au niveau des concepts, eh ben, on a perdu parce que le droit à la différence va être plus fort et plus fort aujourd'hui que des concepts restrictifs. La tendance de fond est une tendance à l'ouverture. Alors, on peut y mettre ce qu'on veut derrière l'ouverture, mais de la part des lycéens, c'est ça qui est le plus essentiel. Et donc, si on n'est pas capable, en contrepoint, de vanter une république laïque et une laïcité qui soit positive, républicaine, on aura perdu la bataille.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Guy Carlier consacrée à l'Euro de foot qui vous a fait son bilan à l'aube de la finale tant attendue ce dimanche. Restez avec nous sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci d'être fidèle à cette émission tous les week-ends. Avant de retrouver la chronique de Guy Carlier consacrée à l'Euro de foot, on va s'écouter la plus belle chanson de Louis Armstrong. Le chanteur dont on a commémoré les 50 ans de la disparition le 6 juillet dernier a composé ce tube planétaire en 1967, en pleine guerre du Vietnam, sur fond de ségrégation. Le but était d'apporter un peu de paix et d'optimisme dans cette période de révolte. Voici What a Wonderful World sur Sud Radio.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
What a Wonderful World dans le meilleur de Sud Radio, sublime chanson extraite de l'album éponyme de Louis Armstrong. Allez, on va terminer avec Guy Carlier, à la limite du hors-jeu, la chronique de Guy Carlier sur l'Euro de foot. Et lundi, il vous a fait un bilan de la compétition avant la grande finale Italie-Angleterre ce dimanche. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour Guy.
Bonjour Guy.
Bienvenue.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Philippe, excusez-moi, bonjour à tous. Ouais, excusez-moi Philippe, car je suis tellement heureux à l'idée que la direction de Sud Radio ait octroyé ces quelques jours de congé à Patrick Roger, tant il était désireux de participer au stage pétanque et naturisme qui débute aujourd'hui à Ramatuelle.
Oui, on c'est est très tout. Heureux pour lui. J'imagine la scène, excusez-moi. Mais si on parlait plutôt de l'Euro, tiens, si vous nous faisiez un premier bilan de la compétition avant les demi-finales.
Eh bien, il reste 3 matchs à jouer dans cet Euro. Demain, une demi-finale latine entre l'Espagne et l'Italie. Mercredi, le match du Nord entre les Saxons et Scandinaves, Danemark-Angleterre. Dans l'opinion publique, l'équipe du Danemark bénéficie d'une incroyable vague de sympathie, davantage pour des raisons émotionnelles que sportives, car le public a besoin de valeurs positives, de joie, de gaieté, d'enthousiasme, et le Danemark leur offre tout ça. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas vraiment passionnés par le foot, mais qui s'intéressent assez vibre aux grands événements du monde, se sont pris de passion pour cette équipe dont l'épopée a débuté le jour du drame de Christian Eriksen. Ceux qui aiment le Danemark sont les mêmes qui allument des bougies aux fenêtres pour montrer leur compassion après un attentat, les mêmes qui déposent des peluches devant le domicile d'enfants battus, et il ne faut surtout pas se moquer, prendre leur bienveillance pour de la naïveté, c'est juste une quête de valeurs positives. À l'inverse, dans l'opinion publique, l'équipe d'Italie est mal aimée. Il faut reconnaître que la dernière demi-heure du match Italie-Belgique ne fut qu'une suite de simulations pour gagner du temps et casser le rythme du match. Et même moi, qui pourtant aime les Italiens, leur mélange de classe et de magouille, cette élégance, jusque dans la vulgarité d'un Mastroianni, la mauvaise foi touchante d'un Verratti, mais la classe, toujours la classe, j'ai pensé que cette fin de match était insupportable, au point qu'on en venait presque à souhaiter la victoire des Belges, je vais vous dire. À cet égard, l'image du joueur immobilé qui justifia son patronyme en se laissant tomber dans la surface belge pour obtenir un pénalty imaginaire et resta un long moment au sol, inanimé, au point qu'à un moment on s'est dit « c'est pas possible que ce soit une simulation ». On a repensé à Eriksen justement, mais ses coéquipiers, eux, n'étaient pas dupes, puis ils ont continué à jouer et passant à peine 2 mètres de son corps inerte sans même un regard, sont allés marquer le deuxième but qui qualifiait la squadra. Et là, ce n'est plus immobilé, c'était Lazare à qui Jésus venait de dire « lève-toi et marche », car comme par miracle, alors qu'on le pensait en arrêt cardiaque, le joueur italien se releva et se mit à courir comme un lapin pour féliciter le buteur. Voilà pourquoi tout le monde rêve d'une finale Danemark-Italie qui verrait le triomphe des Danois. Le Danemark triompherait parce que même sur le plan du football, la squadra est incontestablement meilleure. Dans l'inconscient collectif, cette finale est bien plus que du foot. C'est le symbole du combat entre la bienveillance et le cynisme, ce combat que l'humanité est en train de perdre. Voilà pourquoi le public a tellement besoin que pour une fois, juste une fois, et même s'il ne s'agit que de foot, le bien triomphe du mal et la vertu du vice. Quand je vous disais que le foot, c'est la vie.
C'était la combinazione et à l'italienne. J'ai une question à vous poser, mon cher Guy Carlier. Vous étiez au Festival d'Avignon, c'est pas très loin de Ramatuelle. Vous allez rejoindre Patrick Roger au stage pétanque et naturisme?
Non, mais je vais en profiter pour faire ma promo, la première à lui mercredi, au chien qui fume.
J'allais le dire.
Je vous y attends et je suis mort de trouille.
Ah bon.
J'allais le dire. Donc c'est le Festival d'Avignon, le chien qui fume. Vous pouvez y aller. Hein. C'est mercredi, c'est ça? Et jusqu'à mercredi, vous allez faire quoi? Vous allez vous enfermer et apprendre votre texte?
Et écrire des chroniques pour
Sud Radio.
Ah oui, d'excellentes chroniques d'ailleurs.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdine.
Et la chronique de Guy Carlier sur l'Euro de foot est à retrouver du lundi au vendredi dans la matinale à 7h40 précise. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, surtout, prenez soin de vous et excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.